Et si vous voulez connaître effectivement une situation où il fait très chaud, vous pouvez venir à Beyrouth, vous pouvez venir jusqu'à l'Institut français où nous nous trouvons. C'est un peu compliqué parce que c'est assez embouteillé à cette heure-là. Et donc parvenir jusqu'à Beyrouth, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident aussi parce que la situation ici est très contrastée avec une ville éminemment moderne, avec énormément de grues, beaucoup de constructions, avec des jeunes gens très à la mode et puis avec énormément de réfugiés. Je le rappelle, il y a 1,5 million de réfugiés pour un pays qui compte 4,5 millions d'habitants. Et notre reporter des matins, Maïwenn Guizhou, bonjour. On a rencontré une femme avec ses enfants.
C'est ça, j'ai rencontré Sana, une jeune femme, une jeune réfugiée syrienne de 25 ans. Cela fait un an qu'elle vit dans les rues de Beyrouth avec ses deux enfants. Elle est forcée de mendier pour nourrir sa famille.
Je ne comprends pas pourquoi des personnes reçoivent de l'aide et d'autres non. On est tous dans le même bateau. Mais on souhaite tellement que la situation se calme. Qu'y a-t-il de plus beau que de retourner dans son pays? On espère que la Syrie redevienne comme avant.
On retrouvera vos différents reportages, Maïwenn Guizhou, car vous êtes promenée à Beyrouth et dans la périphérie de la ville. Nous sommes en compagnie de Michel Touma, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien L'Orient Le Jour. Emmanuel Bonne, bonjour. Vous êtes ambassadeur de France au Liban depuis 2015. Et Nadine Meouchi, bonjour. Vous êtes historienne et justement, puisqu'il est question d'histoire, pour situer tout d'abord la géographie de la région, pour comprendre les liens qui relie le Liban et la Syrie, il y a une célèbre formule d'Hafez al-Assad, le père donc de Bachar. Cette formule était la suivante. Historiquement, la Syrie et le Liban ont formé un seul pays et un seul peuple. Le peuple de Syrie et du Liban a été uni à travers l'histoire. Il en est résulté des intérêts communs. C'est une phrase qu'il a prononcée en 1983 et qui a été longuement commentée. Pourquoi, Nadine Meouchi?
Tout d'abord, il faut revenir sur le fait que jusqu'en 1918, le Liban et la Syrie appartenaient à ce qu'on appelait à l'époque les provinces syriennes de l'Empire. Et donc, effectivement, les populations de l'actuel Liban et de l'actuelle Syrie appartenaient à un ensemble culturel, social et je dirais même anthropologique commun. C'est avec l'arrivée de la France pour ce qui est du Liban et de la Syrie que deux États ont été créés, le Grand Liban qui a été détaché des provinces syriennes pour constituer une entité à part et l'État syrien dont les frontières ont mis un peu plus de temps à être créées. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que au fond, moi je ne dirais pas que ce sont simplement des intérêts communs, il y a aussi des dynamiques communes qui sont donc communes à ces deux sociétés qui ont pourtant évolué assez différemment depuis 1920 et qui sont à la base ou qui sont des données importantes des crises qu'ont traversé le Liban et la Syrie. Le Liban d'abord avec l'avertissement de 58, puis avec la guerre civile, et la Syrie avec l'actuelle guerre civile. Au fond, si on regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que une grande partie des données sont communes, ce sont les mêmes.
Des données communes, une présence de la France qui est longue, monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, face au conflit syrien, vous êtes à l'avant-poste de ce conflit. Il n'y a plus d'ambassade de France en Syrie depuis 2012. Que peut faire la France? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, il y a ce que l'on peut faire en Syrie, qui a été encore très récemment au Conseil de l'Europe exposé par le président de la République. Il nous faut travailler avec tout le monde, parler à tout le monde, avoir ce dialogue à la fois franc et ferme avec la Russie, qui aujourd'hui bombarde lourdement Alep, mène les opérations militaires. Il nous faut œuvrer à définir un intérêt commun qui permette de sortir de cette phase d'extrême violence et d'engager enfin une négociation qui nous permette d'avoir en Syrie une solution politique. Et il y a tout ce qu'il nous faut faire par ailleurs, et notamment ici au Liban, qui est exposé massivement aux conséquences de la crise syrienne, non seulement humanitaire, mais aussi politique. Alors pour revenir sur la phrase de Hafez al-Assad, il faut quand même rappeler que c'est une phrase qui avait un sens politique et qui lui permettait de contester la souveraineté libanaise. Or pour nous, Français qui sommes attachés au Liban, eh bien l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Liban tienne bon. Le Liban est un petit pays, c'est un petit pays qui a ses fragilités, mais c'est un petit pays qui, dans le contexte d'aujourd'hui, de violences extraordinaires dans la région, porte un message. Ce message, c'est celui de la pluralité et l'intérêt commun que nous avons tous dans la communauté internationale et que les Libanais ont, en dépit de leurs divisions, eh bien, c'est de rester unis, c'est de rester un pays en paix malgré tout. Donc nous y travaillons en soutenant les réfugiés syriens au Liban, mais aussi les communautés libanaises qui les accueillent et qui sont souvent les populations les plus pauvres du Liban, en soutenant aussi l'armée libanaise dans son travail de sécurisation des frontières et du territoire, en soutenant également la société civile libanaise. Il faudra peut-être en parler parce qu'elle joue un rôle absolument extraordinaire auprès des populations pour alléger toutes ces difficultés.
On peut en parler avec vous, Michel Touma. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien L'Orient Le Jour, qui est donc un quotidien francophone, comme son nom l'indique, qui est ici à Beyrouth. Et lorsqu'on voit, lorsqu'on lit vos articles, Michel Touma, on voit de la colère face à la passivité occidentale.
Effectivement, face surtout à la passivité américaine, je dirais, et plus précisément de l'administration Obama. Parce qu'en 2013, le président Obama avait clairement déclaré que l'utilisation d'armes chimiques serait une ligne rouge. Les armes chimiques ont été utilisées et il n'y a eu aucune réaction. Alors cette absence de réaction était vraiment une carte blanche accordée à Bachar el-Assad, qui s'en est donné à cœur joie pour bombarder les populations civiles. Et le plus grave dans ça, c'est que cette carte blanche et l'attitude du régime syrien a provoqué un renforcement des courants extrémistes et djihadistes en Syrie et aussi dans la région en général. Et ce qui était clair dès 2013, c'est que cette passivité américaine et ce renforcement des courants djihadistes allaient déborder le cadre syrien et allaient même atteindre des sociétés européennes et peut-être même américaines. Donc cette colère à l'égard de la passivité américaine est due au fait que ça aurait pour conséquence, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe de plus en plus, un renforcement des courants djihadistes, extrémistes et radicaux, ce qui remet en cause toute la physionomie sociologique de la région et qui a un impact sur l'Europe aussi.
Concrètement, quelles sont les alternatives ? Aujourd'hui, on voit une sorte de conflit inextricable. Plus on avance, plus la Syrie semble s'enfoncer dans la guerre. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On a bien entendu que vous pensez que la ligne rouge qui a été franchie avec l'utilisation d'armes chimiques aurait dû entraîner une riposte. Cette riposte n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, d'abord, il faut cesser de bombarder et de s'attaquer à l'opposition non djihadiste. Il semble que près de 80% des frappes russes en Syrie ne visent pas l'État islamique et ne visent pas Daesh et les positions djihadistes, mais l'opposition avec laquelle on pourrait, dans le cadre d'un processus politique, négocier un accord de règlement. Alors, ce qui est en train de se passer, on s'en prend à l'opposition. Je ne voudrais pas l'appeler opposition modérée, parce que c'est un terme très élastique, disons une opposition non djihadiste. Et on laisse faire.
Celle-ci existe, selon vous, elle est suffisamment puissante aujourd'hui pour peser sur le destin syrien ?
Mais alors, les Américains, ils ont, au nord de la Syrie, lorsqu'ils veulent, ils peuvent le faire, ils ont mis sur pied ce qu'on appelle les forces syriennes démocratiques, qui étaient un groupe regroupant des Kurdes et des organisations sunnites. Ils ont mis sur pied cette force-là et qui a enregistré des progrès nets au nord de la Syrie. Et la Turquie, quand elle est intervenue aussi un peu dans ce même sens. Donc s'il y a une volonté politique, je pense qu'il est possible La société syrienne est une société qui comporte une élite qui n'est pas du tout négligeable. Il y a une élite syrienne très large avec laquelle on peut négocier, reconstruire une Syrie qui ne soit pas djihadiste.
Emmanuel Bonne, vous êtes l'ambassadeur de France au Liban. Avec quel groupe démocratique peut-on négocier aujourd'hui en Syrie? Est-ce que vous avez un interlocuteur?
Alors oui, nous avons des interlocuteurs. Il y a une opposition dont nous avons reconnu la légitimité pour négocier dans le cadre de la transition politique que nous appelons de nos voeux. Transition politique que nous appelons de nos voeux pour une raison simple, c'est qu'il faut une transition politique pour ramener la paix civile en Syrie. Mais notre conviction au long cours dans la crise syrienne, c'est qu'il faut agir avant qu'il ne soit encore plus compliqué d'agir. Et 5 ans après le début de la crise, personne ne peut s'étonner qu'aujourd'hui la Syrie soit davantage fragmentée, que l'opposition démocratique soit affaiblie, que les forces extrémistes soient plus puissantes. Mais la seule conclusion que l'on peut tirer de tout ça, c'est que plus le temps passe, plus c'est compliqué. Donc il y a toujours eu dans cette crise des risques à prendre, et la France a été prête à les prendre, et notamment à faire en sorte que les lignes rouges que nous avions posées ne soient pas franchies. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les Russes sont massivement engagés dans des opérations militaires qui doivent cesser avant que la situation ne soit encore plus dramatique.
Qui doivent cesser, mais de sources différentes, on sait que ces opérations ne cesseront pas, monsieur l'ambassadeur.
Alors, on sait. Non, je ne sais pas. Il faut y travailler.
Vladimir Poutine l'a répété et dit. Il a dit qu'il
faudra bien que ça cesse. Les opérations militaires ne sont pas pour toujours. Et quelle que soit, si vous voulez, la difficulté du terrain, quelle que soit
jusqu'à
l'état
la reddition,
du rapport
de en tout
force,
cas, pardonnez-moi.
Il faudra bien une négociation
jusqu'à la reddition des rebelles. C'est ce qui a été proposé à 2 reprises. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait en quelque sorte un accord de paix, une reddition? Est-ce que ça n'est pas une sortie de crise possible?
Une reddition n'est pas un accord de paix, c'est une reddition. Si nous voulons un accord de paix, il faut une négociation politique. Donc il y a des gains qui peuvent être obtenus par des opérations militaires. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importants pour nous tous, de la stabilité et de la paix civile, qui ne dépendent que de l'engagement et des termes d'une négociation. Et c'est cela que nous voulons rechercher.
Nadine Meouchi, vous avez, par rapport au conflit syrien, une vision qui est contrastée. En tout cas, vous considérez qu'il est compliqué de choisir entre les deux camps, même si, évidemment, Bachar el-Assad n'a pas votre sympathie.
Quand vous parlez des deux camps, vous parlez de Bachar el-Assad et de l'État islamique. Alors je pense déjà là qu'il y a une grosse erreur d'analyse et une méconnaissance du terrain qui est largement propagée par les masses médias, pas seulement français mais en Europe, et qui annihile un certain nombre d'acteurs qui sont, de mon point de vue, les prémices d'une société civile et qui portent encore en majorité les valeurs qui ont été celles de 2011 et que le régime de Bachar el-Assad s'est employé à éradiquer parce que ses valeurs le menaçaient, le concurrençaient. Quand l'opposition syrienne manifestait pacifiquement pour demander l'égalité, la liberté et s'engager dans l'unité nationale pour le régime syrien et le régime Assad, il s'agissait bien d'une menace sur les propres thématiques qu'il mettait en avant pour se légitimer. Alors je veux revenir sur ces acteurs de l'ombre, je dirais même ces héros de l'ombre. Il faut savoir qu'il y a environ 800 associations à peu près qui travaillent à l'intérieur de la Syrie, qui font l'humanitaire. On pourra revenir après si vous voulez sur la question de l'humanitaire.
On y reviendra à partir de 8h20.
Qui font de l'humanitaire de terrain. Ce sont des activistes humanitaires. Tout le monde connaît les white helmets, les casques blancs, mais c'est un aspect. Mais il y a des tas d'activistes partout, y compris sur l'Euphrate. Et ces gens-là qui sont constitués en associations, qui risquent leur vie, sont parfaitement ignorés, alors que si on considère qu'ils sont 5 ou une 10, enfin ça fait plus... On ne sait pas combien il y a de... Parce qu'il y a beaucoup de clandestinité, bien sûr. Mais ça fait quelques milliers de personnes qui sont engagées sur le terrain, qui promeuvent des valeurs, en tout cas de vivre ensemble. Et à mon avis, sans lesquels on ne pourra pas construire un accord de paix. Il suffit pas de faire des accords de paix. Encore faut-il que la population accepte ces accords et que ces accords soient vivables. Or, à l'heure actuelle, tout ce qui est proposé ne peut pas tenir la route, non seulement parce que cette espèce de dichotomie entre le régime et Daesh est une aberration du terrain, mais ensuite parce que on est en train de se retrouver comme à la fin de la Première Guerre mondiale avec des puissances étrangères qui sont en train de décider le destin de populations locales auxquelles on ne demande pas leur avis une fois de plus.
Alors, comme on est en Orient et qu'il faut naviguer vers l'Orient avec des idées simples, Michel Touma, il y a un protagoniste important dans cette crise syrienne qui est très présent à Beyrouth, qui est présent à chaque carrefour, c'est le Hezbollah. Que cherche le Hezbollah? Dans quelle mesure il pèse sur le conflit syrien? Je rappelle que c'est un parti, une organisation classée terroriste qui est proche du pouvoir iranien. On dit que c'est d'ailleurs le principal succès en politique étrangère de l'Iran. Aujourd'hui, que veut le Hezbollah?
Alors, le Hezbollah veut tout simplement servir la politique iranienne, la politique d'État iranienne. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, il le dit publiquement. Donc le fait qu'il participe au combat en Syrie a pour but de défendre Bachar el-Assad et de défendre la politique, il faut appeler les choses par leur nom, la politique hégémonique iranienne. Donc ces calculs ne sont pas du tout des calculs libanais. Sa structure politique et sa doctrine politique d'ailleurs est claire. Lorsqu'il fait acte d'allégeance inconditionnelle au guide suprême de la révolution iranienne, qu'on appelle le Wali al-Faqih, ça s'est écrit dans sa littérature politique, ce n'est pas une analyse. Et cette allégeance remonte au milieu des années 80, à 84-85. Donc le projet politique du Hezbollah est un projet transnational qui s'inscrit dans un cadre régional global qui sert les intérêts des intérêts du projet politique iranien.
Et comme ce projet est transnational, il est aussi transreligieux, puisque aujourd'hui, le Hezbollah chiite est soutenu ici au Liban par un certain nombre de populations, dont les populations chrétiennes.
Je ne suis pas très sûr de ça. Je pense que vous faites allusion au général Michel Aoun et au courant aouniste. Mais là, je ne suis pas sûr. Je connais un peu les responsables aounistes. Leur positionnement actuel est un positionnement, disons, politicien, qui a pour but de leur permettre d'avoir une place sur l'échiquier politique, mais je ne suis pas sûr, je suis en mesure d'affirmer qu'ils n'approuvent pas réellement le projet politique du Hezbollah.
Emmanuel Bonne, vous êtes l'ambassadeur de France au Liban. Comment voyez-vous le rôle du Hezbollah et plus généralement de l'Iran dans la situation en Syrie? Comment la France l'aborde-t-elle?
Alors, vous citiez tout à l'heure le général de Gaulle, l'Orient compliqué, les idées simples. On a un peu oublié la suite de la phrase qui était « une partie essentielle s'y jouer, il fallait en être ». Et la France veut en être aujourd'hui. Alors pour en être, que fait-elle? Elle parle à tout le monde, elle travaille avec tout le monde et elle cherche à obtenir des solutions qui soient inclusives d'une multitude d'intérêts communautaires, confessionnels, sociaux, politiques, etc., mais qui sont chacun quelque part légitimes et dans une situation de très grande tension comme aujourd'hui au Liban ou dans la région, sont très difficiles à articuler. Mais notre travail diplomatique, c'est celui-là, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, un intérêt commun à la paix civile, un intérêt commun à la stabilité émerge. Alors, ce que nous demandons au Hezbollah, ce n'est pas de s'effacer de la scène politique, c'est de jouer un rôle politique et de jouer un rôle de modération, non pas de simplement d'excitation et d'alimentation des tensions en Syrie comme au Liban.
Vous pensez qu'on peut trouver un accord avec eux?
Alors, c'est pas avec eux seulement qu'il faut trouver un accord, c'est avec tout le monde au Liban. Et ils doivent y participer, comme tout le monde, aux mêmes conditions de clarté que pour tout le monde.
On continue à évoquer la situation en Syrie depuis Beyrouth, depuis l'Institut français où nous sommes. On évoquera notamment la situation humanitaire. Merci à tous les trois de nous avoir exposé votre point de vue.